France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Arrière-petite-nièce de Napoléon Ier, Marie Bonaparte était née princesse en 1882, avant de le devenir un peu plus encore en 1907 par son mariage avec Georges, prince de Grèce et de Danemark. Mais c'est bien pour avoir été la princesse de la psychanalyse qu'elle est entrée dans l'histoire. Sublimement folle, disait d'elle Philippe Solers, dans le premier des deux profils perdus que Cécile Hamzy consacrait à Marie Bonaparte en 1987. Folle, peut-être bien de l'histoire familiale, aussi romanesque que tragique, que nous allons entendre raconter. Mais au-delà de ses extravagances et de ses bizarreries, libre et généreuse aussi, Marie Bonaparte, qui, dans les années 20, mit son statut social, sa fortune et toute son énergie au service du développement et de l'implantation en France de la psychanalyse, dont elle était elle-même praticienne. Un rang et une fortune dont elle usa également pour arracher son analyste maître et ami Freud et beaucoup d'autres intellectuels juifs au sort que leur promettait le nazisme. C'est donc le premier volet de l'évocation de cette personnalité fascinante que fut la dernière Bonaparte que nous écoutons maintenant avec la voix de Marie Bonaparte et celle d'Elisabeth Roudinesco, Philippe Solers et Gilbert Torgemann.
Profil perdu. Marie Bonaparte, une émission de Cécile Hamzy.
J'ai d'ailleurs eu l'honneur d'être l'élève de Freud en 1926. J'ai subi par lui une analyse didactique qui m'a permis de connaître la pensée du maître et surtout de connaître la façon dont il vivait dans son intimité tellement honorable et tranquille, contrairement à ce que tant de jours on croyait que Freud était un personnage bizarre qui ne s'intéressait qu'au problème de la sexualité en vertu d'une perversion personnelle. Je pus voir la remarquable harmonie qui régnait dans sa famille. Il vivait entre sa femme et ses enfants, et en particulier Anna Freud, qui est sa plus grande continuatrice et qui actuellement exerce à Londres la psychanalyse d'une façon magistrale. Et qui est d'ailleurs restée ma meilleure amie.
Et cette femme à la voix masculine, comment vous la décririez physiquement ?
Moi, je n'ai eu affaire qu'à des photos. Marie Bonaparte était très grande, 1m75 à peu près.
Elisabeth Roudinesco.
Assez belle dans son enfance, brune. Belle, bien que... Un petit peu masculine dans sa façon d'être, une espèce de terreur de sa féminité, et en même temps d'une élégance absolument extraordinaire, c'est-à-dire comme pour quelque chose qui serait déguiser l'absence de féminité par une surabondance de vêtements féminins. Donc, élégance extraordinaire, très impressionnante dans les bijoux, les parures, etc. À la fin, c'était plutôt une vieille femme un peu... toujours élégante et digne. Mais toujours avec un côté extravagant. C'est-à-dire que la plupart des gens qui l'ont rencontrée étaient frappés à la fois par sa capacité à dire à table des obscénités extraordinaires. Elle jurait comme un charretier. Et en même temps, une grande dame distinguée.
Le tournant de la vie de Marie Bonaparte, devenue par son mariage princesse de Grèce et du Danemark, née le dimanche 2 juillet 1882 à Saint-Cloud, morte le vendredi 21 septembre 1962, le dernier jour de l'été, à la clinique de Saint-Tropez, fut sa rencontre avec Freud en 1925. Rencontre qu'elle a relatée dans son journal d'analyse à la date du 22 octobre de cette même année. Rencontre d'un homme âgé n'espérant plus rien de la vie et d'une princesse en quête d'une cause. J'ai 70 ans, lui dit Freud. J'ai eu une bonne santé, mais il y a quelques petites choses qui ne vont plus. C'est pour cela que je vous préviens, vous ne devez pas trop vous attacher. En réponse, Marie se met à pleurer et lui dit qu'elle l'aime. S'entendre dire cela à 70 ans, s'écrie Freud, plutôt content. Il lui dit peu de temps après, « Voyez-vous, je ne vous connais que depuis 3 semaines et je vous en raconte plus qu'à d'autres après 2 ans. Il me faut aussi ajouter que je ne suis pas un connaisseur en êtres humains. « Non, ce n'est pas possible, s'écrie Marie, oubliant Jung, Adler, Rank, etc. « Non, je ne m'y connais pas, reprend Freud. J'offre ma confiance et ensuite je suis déçue. Peut-être que vous me décevrez aussi. » Marie tendit la main en arrière des coussins et il la lui prit. « Mon cher ami, dit-elle les larmes aux yeux, non, je ne vous décevrai pas. Je crois qu'avec vous, je ne me trompe pas. » dit-il enfin. Il y a en moi un disciple qui ne fléchira pas, lui assurera plus tard Marie Bonaparte. Donc Marie Bonaparte, c'est avant tout une force de vie assez terrible.
C'est plutôt une force de mort assez terrible. Et c'est cette manière dont elle est habitée par la mort et notamment par l'identification à une femme morte, puisque sa mère est morte un mois après sa naissance, qui lui a donné paradoxalement cette formidable énergie. Donc on peut dire une vie, une force de vie, mais qui est l'illustration un petit peu de ce que Freud dit sur la pulsion de mort. Marie Bonaparte est vraiment habitée par une pulsion destructrice, et c'est cette pulsion destructrice qui la fait vivre.
Mademoiselle Freud travaillait donc conjointement avec son père, mais lui-même, ça ne l'empêchait pas de continuer à avoir un certain nombre d'analyses. Il avait surtout d'ailleurs des analyses didactiques à ce moment, et je n'oublierai jamais le salon où il recevait ses patients, qui était plutôt son bureau, le divan sur lequel avait été créée l'analyse, sur lequel j'ai également l'honneur de m'étendre, au-dessus de laquelle, duquel trônait le portrait de Charcot, dont il avait gardé un grand souvenir et pour lequel il avait un grand culte. Freud, d'ailleurs, était un des êtres les plus doux et les plus dénués d'agression et de méchanceté que l'on puisse voir. Il vivait d'une façon extrêmement simple. Il me disait un jour, on dit que les hommes de génie sont insupportables dans leur famille. Demandez à ma famille si je suis insupportable, je ne dois donc pas avoir de génie. Eh bien, et c'était exact, c'était l'homme le plus dénué de cruauté et d'agression que l'on puisse voir.
L'histoire de sa famille, si on avait voulu l'inventer pour un roman, on n'aurait pas réussi. C'est quelque chose à la fois de très tragique, de très romanesque, d'épouvantable et de fascinant.
Elle s'appelle elle-même la dernière Bonaparte.
Elle s'appelle elle-même la dernière Bonaparte et elle est la dernière Bonaparte. On peut peut-être comparer au fond avec ce qui s'est passé à Vienne fin de siècle. C'est-à-dire, Marie Bonaparte appartient à une époque, elle est née en 1882, où le bonapartisme n'existe plus politiquement, où les monarchies sont tombées, et elle est à la fois princesse et Bonaparte, dans un monde fou, où les souverains ne règnent plus. C'est, disons, la fin d'un monde, un petit peu comme la monarchie des Habsbourg était la fin d'un monde pour Vienne fin de siècle, c'est-à-dire le moment où la psychanalyse a été découverte, avec la folie qu'on connaît de cette monarchie fin de règne. Il y a donc là quelque chose de tout à fait particulier. Elle était l'arrière-petite nièce de Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire l'arrière-petite-fille de Lucien Bonaparte, frère de Napoléon. Son grand-père, Pierre Bonaparte, avait épousé une roturière qui s'appelait Éléonore Justine, et l'empereur, Napoléon III, a condamné ce mariage, de sorte que c'est la République qui a reconnu finalement ce mariage de Pierre Bonaparte avec une roturière, ce mariage civil alors qu'elle avait été condamnée. Et cette Éléonore, cette grand-mère donc de Marie Bonaparte, qui était la mère de Roland Bonaparte, lui-même le père de Marie Bonaparte, a joué un rôle très important dans l'enfance de Marie. Parce que, étant donné qu'elle était roturière, on va l'appeler la princesse Pierre. Elle n'aura d'ailleurs le droit de s'appeler la princesse Pierre que beaucoup plus tard, quand ce mariage aura été reconnu. Cette princesse Pierre vouait à son fils Roland Bonaparte, donc le père de Marie, un amour absolument exclusif et passionnel. Et cette princesse Pierre, qui était roturière, recherchait les honneurs de façon extraordinaire, comme souvent les roturières. Et cette princesse a fait faire à son fils Roland, qui lui s'intéressait à la botanique, qui était un homme cultivé, intelligent, peu épris de pouvoir et complètement entre les mains de sa mère lui a fait faire un mariage avec une roturière, mais riche, qui était Marie Félix Blanc, la fille du fondateur du casino de Monte-Carlo. Il s'agissait de doter cet homme d'une fortune, donc un mariage bourgeois. On sortait à ce moment-là définitivement des lignées aristocratiques, et en particulier de tout ce qui était la noblesse. C'était un mariage bourgeois. Et la mère donc de Marie, cette Marie-Félix Blanc, est morte un mois après son accouchement. Dans des conditions dramatiques, elle est morte d'une hémoptysie qui a pris l'allure d'une embolie, de sorte que dans son enfance, Marie a été élevée par son père, mais qui était tout le temps absent, qui faisait de grands voyages, qui s'intéressait à la botanique, qui était un homme efféminé, dont on peut supposer qu'il avait des tendances homosexuelles, mais rien n'est prouvé. En tout cas, dans son propre récit de ses mémoires, Marie Bonaparte semble le dire, elle ne le sait pas bien elle-même. En tout cas, cet homme ne s'intéressait pas aux femmes. Et il était sous l'emprise de sa mère. Et Marie a été élevée par cette grand-mère paternelle. Et son enfance a été absolument horrible. Parce que cette grand-mère était autoritaire, épouvantable dans l'éducation, répressive, obsédée par la contagion. Elle avait peur que Marie se mêle aux enfants du peuple. On l'interdisait de jouer. Elle était obligée de se tenir de façon guindée. On l'empêchait aussi d'être une femme dès son enfance. Elle avait les cheveux courts. On empêchait toute expression de sa féminité. Elle devait être un homme. Et cette grand-mère était elle-même comme un homme. Et Marie Bonaparte l'a décrit d'ailleurs comme un homme, c'est-à-dire capable, elle le dit, c'est les mots qu'elle emploie, Marie, de pisser debout dans la foule en écartant ses jupes. Donc un personnage absolument épouvantable. En outre, cette grand-mère, dans les fantasmes de Marie Bonaparte et dans son identification primaire à sa mère morte, elle avait le fantasme qu'au fond on avait assassiné sa mère, pour lui prendre sa fortune.
Et ce qui n'est pas entièrement faux.
Ce qui n'est pas entièrement faux, mais d'un autre côté, c'est ce qui a aussi permis à Marie Bonaparte d'hériter.
Mm-hmm. D'ailleurs, elle s'est sentie coupable de ça toute sa vie.
Elle s'est sentie coupable toute sa vie d'avoir de l'argent. Et elle a eu en même temps une attitude absolument extraordinaire avec l'argent, c'est-à-dire le dépensant sans compter, en particulier pour Freud, s'engageant dans l'utilisant au fond pour une grande cause, au lieu de vivre comme une simple bourgeoise. Et en même temps, ça lui a permis aussi, plus tard, de se féminiser, c'est-à-dire de s'acheter des toilettes extravagantes, d'avoir en tout cas, non pas de se féminiser, mais d'avoir au moins l'apparence d'une femme, ce qu'on lui avait refusé dans son enfance. Par ailleurs, il y a un élément qui me semble très important, entre autres dans l'enfance de Marie, c'est le fait qu'elle avait 12 ans au moment de l'affaire Dreyfus, et que donc cette épouvantable grand-mère était anti-Dreyfusarde et a pris position contre le capitaine Dreyfus, hostile contre le capitaine Dreyfus, considéré comme traître à la France. Et très tôt, Marie Bonaparte s'est enthousiasmée pour ce capitaine juif et persécuté. Je pense que ça n'est pas étranger ensuite à l'attitude qu'aura Marie Bonaparte toute sa vie par rapport à l'antisémitisme dont Freud était la victime. C'est elle qui sauvera Freud de la griffe des nazis, en le rachetant d'ailleurs avec une formidable rançon. Et en même temps, elle sera toujours extrêmement claire avec la question de l'antisémitisme.
Elle n'a pas fait un mariage bourgeois, elle.
Non, mais elle a fait un mariage qui, en même temps, a été épouvantable. Parce que son père, Roland Bonaparte, a voulu retrouver, lui qui avait donc épousé une roturière, a voulu donner à sa fille une noblesse, mais pas une noblesse d'empire, la vraie noblesse. Mais la vraie noblesse, à la fin du siècle dernier, ça n'existe plus, puisque les rois ne règnent plus. On l'a donc obligée à épouser le roi Georges Ier de Grèce, et c'est-à-dire un monarque qui ne règne pas, ou sur une cour qui n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, tous ces monarques étaient, tous ces princes et toutes ces princesses étaient complètement, je ne dirais pas dégénérés parce que j'aime pas le mot, mais complètement en dehors des intérêts de leur époque. Elle a donc épousé le prince Georges de Grèce, qui était d'origine, qui était danois, et qui régnait donc sur le peuple grec. Or, dans son enfance, Marie Bonaparte a été fascinée par le personnage d'Hamlet. En particulier, elle avait vu une représentation d'Hamlet avec ce grand comédien
Mounet Sully,
joué par Mounet Sully, et elle s'était enthousiasmée pour Hamlet. Pourquoi pour Hamlet? Parce que Hamlet est un personnage efféminé qui hésite sur la nature de son sexe, qui ne sait pas s'il est un homme ou une femme, qui ne sait pas s'il est mort ou vivant. Et au fond, le prince du Danemark avait fasciné Marie Bonaparte.
Mais le fait qu'elle ait eu beaucoup d'amants, c'est pas une chose qui vous a, je sais pas, intéressé, entre guillemets?
Oui, elle les a eus. Comment elle les a eus? Oui, ils n'ont visiblement pas suffi à la détourner de son énigme fondamentale qui était toujours: qu'est-ce que c'est qu'une femme?
Philippe Solers.
Il y a des tas de femmes qui ont des tas d'amants, mais qui ne s'aperçoivent même pas qu'ils ont existé. C'est comme il y a beaucoup de femmes qui ont des tas d'enfants qui ne se rendent même pas compte qu'elles les ont fait. C'est très courant. Mais en revanche, la nature féminine est une question beaucoup plus profonde. Alors là, on peut rejoindre l'histoire analytique, à savoir que sa mère était morte lorsqu'elle la mettait au monde, et par conséquent, elle s'est identifiée avec cette mère morte. Elle dit, t'as la mère morte d'Égypte, tout ça, on est reparti dans la...
D'autre part, elle était fascinée aussi par l'Antiquité grecque, parce qu'elle cherchait dans les mythes une solution à ses problèmes d'enfance. Elle fuyait dans la mythologie grecque, elle avait étudié le grec, le latin, et dès l'âge de 7 ans, elle parlait trois langues: le français, l'anglais et l'allemand. L'allemand, c'était pour elle la langue du fantasme. La culture allemande, et en particulier le romantisme allemand, la fascinait, ce qui va se retrouver dans son intérêt pour Freud, à une époque où la France était germanophobe. Elle hallucinait la langue allemande, qui avait d'ailleurs été la langue de sa grand-mère maternelle, puisque sa mère était fille d'une femme allemande. Donc la lignée maternelle chez Marie Bonaparte, c'était la langue allemande. L'anglais était la langue dans laquelle elle écrivait son petit journal d'enfance, ses petits cahiers. d'enfance pour qu'ils échappent, au fond, à une connaissance. C'était la langue secrète.
La connaissance que sa grand-mère paternelle aurait pu avoir
tout à fait.
De ses secrets.
Tout à fait. C'était donc la langue du secret, mais en même temps la langue de la cruauté, dans laquelle elle racontait des contes cruels. Elle transposait en contes les choses. Et elle était fascinée par la mythologie grecque. Et au fond, au moment où son père va l'obliger à épouser Georges Ier de Grèce, elle dit cette chose extraordinaire. Elle dit, au fond, c'est Hamlet régnant sur le peuple d'Édipe. À ce moment-là, elle n'a pas rencontré Freud. Mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire la tragédie de Sophocle et la tragédie de Shakespeare, qui se termine comme on sait. Donc, une espèce de rencontre de signifiants, sans aucun doute. Et ce mariage va être épouvantablement malheureux, parce que ce Georges de Grèce, au fond, répète un petit peu ce qu'a été son père Roland, sauf qu'il est moins intelligent, pas érudit, je dirais presque imbécile. C'est un homme qui ne s'intéresse ni à la culture, ni à la littérature, ni à rien, qui est lui aussi probablement homosexuel. Ça n'est pas dit, ça n'est pas pratiqué, on ne sait pas, mais en tout cas, ce Georges Ier s'est attaché à un oncle, un oncle pour lequel il a un amour fou, et il s'intéresse surtout aux hommes, aux histoires de marins, aux histoires de chasse. C'est un homme extrêmement conformiste et qui ne comprend rien à ce qu'est Marie Bonaparte, qui a une aspiration extraordinaire à la culture. Donc, elle, qui a été très attachée d'un amour exclusif à son père, elle va de nouveau être déçue, parce qu'elle ne trouvera pas dans son mari, prince de Grèce, les mythes qu'elle attend.
Si vous la mettez en parallèle avec, je ne sais pas moi, des héroïnes imaginaires du 19e, il est certain qu'elle a un profil beaucoup, très très... très fort, très très. Alors, c'est pas Emma Bovary, la princesse Bonaparte. C'est pas l'hystérique avec des embrumés comme ça. Bon, par rapport même alors, aux grandes héroïnes de l'analyse, Salomé, les Klein et les autres, elle a un côté indubitablement fou, mais qui, à mon, qui dépasse c'est l'histoire analytique. Oui, il faudrait la recentrer dans ce que je vous indique là. Qu'est-ce qui se passe entre les vrais prince ou princesse et les faux?
Il y a eu aussi une situation terrible pour elle, petite fille, c'est qu'elle a été élevée par une série de nourrices qui vont jouer donc un rôle très important, mais des nourrices qui sont toujours renvoyées par la grand-mère. Donc elle change de nourrice, ce qui est catastrophique. Dès qu'elle s'attache à une nourrice, cette nourrice est renvoyée. Et les nourrices, ça représente le seul pôle de féminité que Marie Bonaparte, et je dirais même de sexualité, que Marie Bonaparte, de sexualité féminine, que Marie Bonaparte ait eu dans son enfance. Or, il y a une situation très curieuse dans cette maison où tout est réprimé, c'est que il y a la présence d'un certain Pascal. Pascal, c'est le demi-frère de Roland Bonaparte, c'est-à-dire un fils bâtard de Pierre Bonaparte.
Qui était aussi un grand séducteur.
Un grand séducteur, mais un vrai homme, lui, dans cette maison. Et cet homme avait été recueilli par Roland Bonaparte parce qu'il avait aidé, la mère de Roland dans des moments difficiles. Et il vivait donc à la maison, il s'occupait des écuries, il était piqueur de chevaux. Et cet homme, qui au fond était un personnage à la fois très masculin, très chaleureux, on l'appelait le piqueur corse, il était d'origine corse, donc bâtard, donc l'oncle de Marie, l'oncle, le demi-oncle, disons, couchait avec toutes les servantes de la maison, et en particulier avec les nourrices de Marie Bonaparte. Et il est certain que la persécution dont étaient l'objet ces nourrices avait un sens sexuel, parce qu'elles étaient renvoyées, parce qu'elles séduisaient, parce qu'elles faisaient l'amour avec Pascal. Alors, en même temps, c'était l'image de la sexualité pour Marie dans sa toute petite enfance, et en même temps, c'était extrêmement réprimé. Elle n'avait donc comme identification qu'une femme morte, un père vaguement homosexuel, et ses nourrices qui débordaient de sexualité, mais qui étaient rejetées. C'était donc une terreur, la sexualité.
Alors on en revient à son analyse avec Freud, les moments les plus marquants.
Un des moments les plus extraordinaires de son analyse avec Freud, c'est quand elle fait à un moment donné, c'est en plusieurs étapes, hein, à un moment donné, elle fait un rêve dans lequel elle est au bois de Boulogne. C'est tout de suite, au début de son analyse, c'est 3 ou 4 semaines après le début de son analyse. Elle raconte un rêve qui se situe donc sur les rives du bois de Boulogne, où elle est assise dans un petit lit bas. Et elle observe les divertissements amoureux d'un couple couché dans un grand lit d'adulte. Et à ce moment-là, Freud va déclarer à Marie, péremptoirement, qu'elle a assisté dans son enfance à des scènes de coït. Pas seulement entendu ou écouté ces scènes, mais vu encore le regard. C'est-à-dire, Freud perce à jour là quelque chose du regard. Alors que d'habitude, dans toutes les interprétations que fait Freud de scènes de fantasmes, de scènes primitives, c'est bien entendu derrière des portes. Bon, là, il dit, vous avez vu. Bon. Naturellement, Marie oppose à ça une farouche résistance et elle dit que qu'elle sa mère était morte, qu'elle n'a pas vu ses parents. Et Freud rétorque, mais vous aviez des nourrices. Tout ça, ça se passe 4 semaines. Il ne sait encore pas bien toute l'histoire de Freud que nous, on connaît déjà.
De Marie Bonaparte.
Et à ce moment-là, elle lui raconte un autre souvenir d'enfance dans lequel, qui ressemble à celui-là, dans lequel elle est sur une petite chaise ou une petite caisse dans la chambre de sa nourrice, qu'elle est debout devant la glace de la cheminée, encore le regard, et que le feu flambe, et qu'elle regarde la nourrice qui est en train de se mettre de la pommade sur ses bandeaux de cheveux noirs, que la pommade est noire, et qu'elle trouve ça dégoûtant, et que sa nourrice a un long visage jaunâtre qui ressemble à un cheval. Freud va interpréter ça comme un souvenir écran qui confirme son interprétation par rapport au rêve. Il dit que la face chevaline de la nourrice renvoie à Pascal, c'est-à-dire le fameux Picker Corse, le demi-frère de Roland, qui est donc à ce moment-là amant de la gouvernante, d'une des gouvernantes de Marie Bonaparte, une autre, Lucie. La cheminée est un symbole du cloaque féminin, noir comme l'intérieur d'un corps, et que le feu est à l'image du plaisir sexuel. Ensuite, il va analyser un conte dans un cahier de Marie Bonaparte, conte qui s'appelle Le crayon de bouche, où il est question d'un crayon sus. Et là, il va dire une deuxième fois, non seulement vous avez assisté à des scènes de coït, mais vous avez vu des scènes de fellation et de cunnilingue. Donc, 3 interprétations absolument magistrales sur le regard. Et Marie Bonaparte ne peut pas le croire. Et comme elle ne croit que ce qu'elle voit, c'est un des problèmes de son rapport à l'anatomie, à la chirurgie, à l'organe, elle va, le fameux Pascal est encore vivant, il a 80 ans, et elle va aller le voir pour lui faire avouer qu'il a été non seulement l'amant de la deuxième gouvernante, Lucie, gouvernante qui apparaît dans le souvenir écran, mais qu'il a été aussi l'amant de l'autre gouvernante, c'est-à-dire de sa première nourrice, Rose Boulet. Et le Pascal résiste, il ne veut pas raconter. Et là, c'est extraordinaire parce que c'est tout Marie. Elle va dire, mais c'est au nom de la science. C'est-à-dire, toujours avec cette idée folle que la science, le savoir, la science, ça lui permet au fond ça lui permet tout. Et elle va finir par convaincre cet homme qui va effectivement raconter qu'il a couché avec la servante, avec la nourrice, pardon, Rose Boulet, dans l'enfance de Marie, devant elle. Qu'ils ont fait des jeux sexuels, des cunnilingues et des fellations. Donc il va y avoir confirmation de ce que Freud avait dit.
Dites-moi la vérité.
Je ne dirai pas oui, mais je ne dirai pas non. C'est tout ce que je peux dire.
C'était l'aveu. Mon bon Pascal, comment cela est-il arrivé? Je le comprends, vous étiez jeune. Alors Pascal, après quelques hésitations et des larmes dans les yeux...
C'est elle qui voulait. Elle courait après moi. Alors moi, j'ai fait mon devoir d'homme.
Je sais quel succès vous aviez auprès des femmes. C'est connu de tout le monde.
Oui, je plaisais aux femmes.
Pascal, n'est-ce pas, ma nourrice était une femme très chaude.
Si elle l'était, mais rien que quand je lui touchais le bras, elle jouissait. Il y a des fois où je croyais qu'elle allait mourir.
Je m'en doutais par mes petits cahiers. Et où? Quand cela se passait-il? Était-ce là-haut, chez moi?
Oui, je montais. Cela se passait partout où nous pouvions.
En plein jour?
Ben oui, aussi.
Je le savais aussi par les petits cahiers.
Mais comment ça est-il possible? Mais comment est-ce possible? Vous étiez si petite.
Est-ce que je regardais?
Vous aviez souvent dans votre berceau les yeux mi-fermés.
Mais plus tard, je n'étais pas toujours dans mon berceau.
Mais vous étiez là, par terre.
Et je regardais?
Oui. Je disais à Nounou, si plus tard cet enfant parlait, qu'est-ce qu'il adviendrait de moi?
L'idéal... De l'éducation, enfin les idéaux fondamentaux qui président à l'éducation de Marie Bonaparte, c'est des idéaux de cuisine, de nettoyage, de maison. Or, elle aspire à être une intellectuelle et on l'empêche de penser, de réfléchir. Elle se réfugie donc dans l'écriture de ses cahiers.
Elle a quel âge à ce moment-là? Et c'est une enfant?
C'est une enfant, elle est très précoce, puisque dès l'âge de 7 ans, elle parle déjà 3 langues. De plus, à une époque où quand même pour la bourgeoisie, on commence à aller au lycée, les femmes commencent à aller au lycée, il y a l'éducation laïque, il y a la scolarité qui commence à s'installer en France avec la Troisième République, Marie Bonaparte n'en bénéficie pas, on lui fait son éducation avec des précepteurs à la maison, donc quelque chose d'à la fois complètement morbide, tout à fait délirant, et qui ne correspond pas du tout aux aspirations qu'elle peut avoir.
Et elle accepte le mariage avec Georges de Grèce. On imagine mal qu'une femme comme elle puisse accepter ce mariage. Elle le fait parce que ça correspond à un fantasme.
Ça correspond à un fantasme, à un désir de sortir de cette condition petite bourgeoise qu'on lui fait, et donc d'accéder tout de même à un règne. Ça va lui permettre de devenir une souveraine, même une souveraine... une fausse souveraine, mais tout de même, d'avoir accès à une cour, de s'habiller comme elle veut, d'avoir son indépendance.
Bon. Elle a quel âge?
Elle a 24 ans, elle s'ennuie mortellement, et ça va lui permettre de sortir. En outre, cet homme est beau, il y a tous ces fantasmes autour du Danemark et de la Grèce, c'est des signifiants. Bon. Elle acquiert tout de même une liberté. Mais elle ne cède pas à un certain nombre de choses. En particulier, elle va faire une chose tout à fait extraordinaire. Elle va refuser que ses enfants soient élevés dans la religion catholique. Georges Ier est orthodoxe. Et elle, naturellement, Marie Bonaparte, elle est athée. Elle a affirmé son athéisme très tôt dans son enfance. Donc, elle ne veut pas, elle ne veut ni se convertir, elle, à l'orthodoxie, c'est-à-dire elle refuse de renier la religion dans laquelle elle a été élevée, puisque de toute façon elle est athée et que ça n'a aucun sens. Mais elle refuse aussi ce que demande l'Église, c'est-à-dire que ses enfants soient élevés dans la religion catholique. Elle va donc faire un mariage orthodoxe et élever ses enfants dans la religion de leur père. Donc elle refuse un certain nombre de concessions, puisqu'elle est athée. Elle accepte ce mariage, à la fois pour faire plaisir à son père, pour sortir de sa condition, pour trouver sa liberté. Je crois que ça se comprend très bien. Mais elle ne sortira pas de sa tristesse ni de son ennui.
Pour une femme qui... a toujours parlé de la sexualité de façon très libre. Est-ce que dans ses mémoires, dans ses écrits, elle parle de l'éveil de sa sexualité?
Elle en parle de façon même triviale. de l'éveil d'une sexualité qui ne parvient pas à s'épanouir, puisque Marie Bonaparte est frigide, restera frigide toute sa vie, et souffre atrocement de cette frigidité. Ce qui va l'entraîner progressivement vers la psychanalyse, mais de façon très curieuse. Avant de s'intéresser à la psychanalyse, et ça va la marquer toute sa vie, Marie Bonaparte ne s'intéresse qu'à une chose, c'est à la question de l'utérus. C'est-à-dire que Marie Bonaparte va aborder la doctrine freudienne et son rapport avec Freud à partir de l'organe utérin, mais je dis bien l'organe au sens anatomique. À une époque où tous les savants, justement, de Freud à Janet, avaient abandonné, en particulier Freud bien sûr, la notion de présomption utérine. C'est-à-dire que la théorie freudienne de la sexualité, en particulier de la sexualité féminine, est bâtie sur l'abandon de la différence anatomique des sexes. En gros, ce dont Freud s'occupe depuis Charcot, depuis la Salpêtrière, c'est de définir une sexualité féminine, de définir la névrose hystérique à partir d'une conception de la sexualité qui ne soit plus fondée sur l'organe utérin. Autrefois, on disait que les hystériques étaient des malades de l'utérus. Freud va montrer qu'elles sont des malades du sexe et que la sexualité fait partie de l'inconscient et que la division entre les sexes, masculin et féminin, du point de vue de l'inconscient, ne recouvre pas la division anatomique. Marie Bonaparte fait un chemin complètement inverse. Elle est préoccupée d'abord de l'organe, c'est-à-dire de son utérus. Elle est donc préoccupée d'un formidable fantasme féminin, dont elle ne se dégagera jamais. Et étant donné qu'elle est frigide, elle va s'intéresser, dès 1924, à soigner sa frigidité par des moyens chirurgicaux, on a oublié aujourd'hui, mais qui à l'époque intéressait un certain nombre de chirurgiens.
Et de femmes.
D'après les renseignements que j'ai eus, vraiment aujourd'hui, c'est une chose qu'on ne pratique plus. Mais à l'époque, donc quand même en pleine époque freudienne, tout de même, 24, un certain nombre de chirurgiens proposaient comme opération pour guérir la frigidité féminine une opération qui consistait à rapprocher le clitoris du vagin.
C'était étayé à partir de la théorie freudienne, qui prétendait que l'orgasme, qui distinguait d'abord deux types d'orgasmes, bien qu'il n'ait jamais prononcé le mot orgasme lui-même. Deux types d'orgasmes, à savoir l'orgasme vaginal et l'orgasme clitoridien.
Le docteur Gilbert Torchmann.
Et qui prétendait que l'organe vaginal était le fait de femmes qui possédaient une maturité supérieure à celle qui ne jouissait que par la stimulation clitoridienne. Et par conséquent, à partir de cette théorie qui dévalorisait en quelque sorte le plaisir clitoridien par rapport au plaisir vaginal, un grand nombre de femmes, se fondant sur une physiologie qui n'était pas d'ailleurs qui n'est pas réelle à mon sens, mais qui correspond quand même à quelque chose de vrai, c'est à savoir que la stimulation clitoridienne représente un starter considérable du plaisir féminin, avait décidé que, étant donné que l'orgasme, la stimulation clitoridienne était privilégiée et qu'elle ne jouissait pas vaginalement, eh bien il suffisait tout simplement de rapprocher le clitoris de l'orifice vaginal pour enclencher le réflexe orgasmique vaginal, ce qui les revalorisait sur le plan de la théorie freudienne. Alors on sait aujourd'hui premièrement que le plaisir vaginal n'est pas plus supérieur au plaisir clitoridien que le plaisir clitoridien n'est supérieur au plaisir vaginal. Je crois qu'il faut se garder de tout éclectisme en ce domaine. C'est comme si un peintre décidait de privilégier une couleur exclusivement par rapport à l'autre. Je crois qu'il faut garder l'ensemble de l'éventail de ses réactions. Et d'autre part, nous savons aussi aujourd'hui, et notamment à partir de certains de mes travaux, qu'il existe deux types d'orgasmes sur le plan médullaire. Bien sûr, l'organe sexuel essentiel restant notre cerveau, ça il faut bien le comprendre, et qu'aucune expérience sexuelle n'est identique à la précédente, puisque, comme dit l'autre, tout coule, pantareille, et que par conséquent nous ne sommes jamais les mêmes. Mais il existe sur le plan médullaire deux types de réflexes, un réflexe externe, où la zone sensorielle de stimulation est représentée par le clitoris, et la zone motrice est représentée par le tiers externe du vagin, et il existe un réflexe profond, qui est le coït vaginal, où la zone réceptive est située au niveau de la face antérieure du vagin, c'est ce fameux point G, le point de Grafenberg, qui n'est pas un point, en fait, qui est une zone où se situent des corpuscules de volupté authentiques que nous avons pu mettre en évidence, et qui, à partir de cette zone réceptionnelle, donc sans qu'il soit besoin d'abaisser le clitoris ou de faire quoi que ce soit, va enclencher un réflexe vaginal profond. Et je crois donc qu'il faut dire aux femmes que, quel que soit le plaisir qu'elles ont, c'est quelque chose de valorisant. Et si par hasard elles n'avaient pas le plaisir vaginal, il ne faut pas pour autant qu'elles se croient anormales.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes à cette époque? Est-ce que c'était une opération couramment pratiquée, cette opération dont on parle?
Eh bien, je ne peux pas vous donner le chiffre, mais ça a été une opération, en tout cas, qui a joui d'un certain prestige pendant un certain temps, et que nombre de chirurgiens de par le monde ont pratiqué. Et je sais, il y a encore deux ou trois ans, que certaines femmes devaient subir cette intervention et sont venues me consulter pour savoir quel en serait le résultat. Et il est évident qu'il faut se garder de pratiquer cette intervention, qui n'a aucune raison d'être, qui est nocive, puisqu'elle touche quand même à une innervation qui est extrêmement riche et qui ne donnera aucun résultat valable. Je pense qu'un chirurgien qui méconnaîtrait la physiologie sexologique, et ça existe, pourrait se laisser convaincre peut-être par une femme qui aurait lu certains articles qui étaient à l'époque dithyrambiques, hein, sur cette intervention.
Mais en fait, ce que vous voulez dire par là, c'est que c'est une opération extrêmement mécaniste.
C'est une opération mécaniste et qui est complètement porte-à-faux avec nos connaissances physiologiques actuelles. Alors je crois qu'il n'y a pas de problème. Faire subir à quelqu'un une opération pour rien, ce serait une opération placebo, mais on sait que tout ce type d'opération placebo qui porte sur des organes, comme les organes génitaux, qui sont très investis sur le plan symbolique, sont toujours nocives.
Et puis alors, il y a encore mieux, c'est cette histoire qu'on a découverte par la suite, c'est la grande histoire alors de la passion chirurgicale de Marie Bonaparte. Elle a passé son temps à se faire opérer, pas seulement d'ailleurs sur du sexe, pour reprocher la question de l'ablation du clitoris et toutes ces petites histoires, mais enfin elle avait aussi des cicatrices, tout ça. Elle adorait se faire opérer au point qu'on peut se demander si quand Freud, dans l'analyse infinie, un de ses derniers textes, parle de l'inanalysable féminin, comme étant en définitive le recours constant à la médecine et à la chirurgie, il ne pense pas au fond à la princesse Bonaparte. Quand il ose cette formule très étrange, à mon avis très juste, très profonde, qu'une femme peut aller jusqu'au bout de la mutilation, de l'automutilation, de se faire découper en petits morceaux, plutôt que de connaître la vérité. Je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait considérer de très près. En tout cas, quand on assiste à ces scènes inouïes où on voit la dite princesse se faire opérer en présence d'une femme, d'ailleurs Ruth Mark Brunswick, ça ne vous a pas échappé, et puis ensuite, mais même tard dans sa vie, en Égypte, avec je ne sais plus qui encore, essayer de voir comment les femmes se faisaient exciser, bon, alors aussi on est partagé entre, alors là, non plus l'admiration grandiose et la bouffonnerie, mais entre l'horreur et le comique absolu, ça aussi, il faudrait voir, alors il faudrait mettre en scène ça comme un petit film amusant, on verrait une princesse Bonaparte qui parcourt les cliniques en essayant d'apprendre la réalité du mystère féminin, et en exigeant d'assister à des opérations d'excision, ce qui n'est pas même pas mal. C'est énorme. Bon, de ce point de vue donc, on peut dire qu'elle est sublimement folle, quoi, et tout en étant parfaitement rationnelle et parfaitement intégrée à sa fonction, ce qui est une des caractéristiques classiques de la paranoïa, surtout féminine.
Obsédée par la chirurgie et par l'esthétique, elle l'est depuis son enfance. Il y a eu un épisode absolument épouvantable dans son enfance. C'est une histoire qui est arrivée avec un employé corse de son père, encore, Léandri, dans son enfance, employé au statut bizarre, puisque cet homme plaisait beaucoup à son père et qu'il y avait quand même une homosexualité latente. Dans cette affaire, il était employé à la maison et il s'est beaucoup occupé de Marie Bonaparte. Il était là avec sa femme et Marie Bonaparte s'était attachée à lui dans son enfance et lui avait envoyé des lettres d'amour.
Donc ce Léandri qui est secrétaire
Le secrétaire de Roland à une époque où Marie Bonaparte a à peu près 15 ans. Donc, l'adolescence. En même temps, c'est ça qui est terrible. C'est que c'est un personnage positif pour Marie. À un moment donné, il va essayer de la féminiser. Il lui fait la cour. Il est probablement à la fois un peu pédéraste. Rien n'est dit, hein. Mais enfin, en tout cas, il a des relations très ambiguës avec Roland Bonaparte. Et en même temps, il déteste la vieille princesse Pierre Bonaparte. Et il dit à Marie qu'il faut qu'elle se féminise. Il lui fait la cour. Il essaye de la faire s'habiller mieux, de façon plus féminine. Et surtout, il lui dit que la grand-mère la détruit. Et en même temps, Roland ne va pas du tout supporter ça et mettre à la porte le secrétaire. Lequel secrétaire, qui est un salaud, menace de... fait chanter Roland, et Marie d'ailleurs, et Roland, en menaçant de publier les lettres que Marie lui a écrites. Donc c'est horrible, parce qu'une fois de plus, quelqu'un qui avait été positif pour la sexualité de Marie prend un visage absolument horrible. Et Marie va en souffrir. Et à ce moment-là, elle tombe sur le rebord d'un piano et elle se fait une grande entaille au rebord du nez qui va lui laisser une cicatrice. Et elle ne supportera jamais d'avoir cette cicatrice. Alors on peut dire que cette cicatrice, c'est au fond quelque chose qui s'est passé comme répression à une féminité qui avait pu s'exprimer et en même temps la marque de cette féminité coupable, puisque cette chute sur le piano intervient à ce moment-là. Or, elle va passer sa vie à vouloir effacer cette cicatrice. Mais en même temps, elle est obsédée par cette cicatrice. Elle va se faire opérer 3 fois du nez. Elle va subir 3 opérations chirurgicales d'esthétique pour faire disparaître cette cicatrice. Elle a une passion chirurgicale. Elle croit, n'ayant pas fait d'études de médecine, c'est quelque chose qui va peser toute sa vie. N'ayant pas fait d'études de médecine, elle est encore plus follement médecin que le serait un médecin. C'est-à-dire, elle a cette passion pour le savoir médical que n'aurait pas n'importe quel médecin. Tout est médical chez Marie Bonaparte. Et non seulement tout est médical, mais tout est biologique. C'est d'ailleurs Gustave Le Bon qu'elle a rencontré qui, le premier, lui a parlé de Freud. Or, Gustave Le Bon, comme on sait, c'est au fond l'artisan d'un inconscient biologique. En tout cas, en France, elle est amie avec Gustave Le Bon, bien qu'elle ne partage pas ses opinions. Mais tout de même, il y a quelque chose d'extrêmement organiciste chez Marie Bonaparte. En 24, avant de rencontrer Freud, elle se fait opérer aussi d'un kyste de l'ovaire. Opération, au fond, normale, mais dans l'état où est Marie Bonaparte, c'est une opération de plus. La même année, elle se fait rectifier les seins qu'elle trouve tombants. Alors, elle est donc très mal. En 1924-25, elle a 43 ans et elle cherche une grande cause. Elle a eu de multiples amants, dont Aristide Briand. Elle a une vie ennuyeuse. Elle recherche à la fois une grande cause et un père pour l'aider, quelqu'un pour la guérir et la soigner. Mais ça n'est jamais séparé d'une aspiration intellectuelle. Et elle a donc entendu parler de Freud par Gustave Le Bon. Elle va rencontrer Laforgue, René Laforgue, qui s'apprête en 24-25 à fonder la Société psychanalytique de Paris, le mouvement psychanalytique est en voie de constitution, puisque cette société psychanalytique sera fondée en 26. Et Laforgue, à l'époque, est un psychiatre célèbre, le représentant de Freud à Paris. Alsacien, il entretient, donc bilingue, il entretient avec Freud une correspondance en allemand. Et elle demande à Laforgue d'intercéder auprès de Freud pour qu'il la prenne en analyse. Elle parle l'allemand, l'anglais et le français, il n'y a donc aucun problème de langue. À cette époque, Freud, d'ailleurs, refuse de faire des analyses en français, Et le fait que Marie Bonaparte parle allemand est un argument pour Laforgue. Laforgue intercède, explique assez bien le malheur de Marie, sans donner trop de détails. Enfin, il parle de névrose obsessionnelle, d'une obsession de douleur au bas-ventre, de problèmes liés à sa féminité. Il parle de sa masculinité. Bon. Et Freud, évidemment, se méfie et répond qu'il ne veut pas prendre cette dame en analyse, qu'il n'a pas le temps à consacrer. D'autant que Marie a fait dire aussi qu'elle voulait une analyse didactique. Elle ne veut donc pas seulement, dès le départ, se soigner, mais devenir une théoricienne de la psychanalyse. Donc avoir une formation didactique. Et Freud refuse. En disant... Je ne peux pas faire comme ça une analyse sans but sérieux. Je pense que Freud est à la fois fasciné parce qu'il s'agit d'une princesse célèbre et que, à cette époque, au fond, la France étant très germanophobe, ayant traité Freud comme un chien, France antisémite et germanophobe, il est à la fois flatté. Qu'une princesse Bonaparte lui demande une analyse et en même temps il a peur de la mondanité de ce milieu. Finalement, elle va elle-même intervenir auprès de Freud et il va la prendre en analyse. Et c'est vrai que là, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire dans cette rencontre parce que Freud comprend tout de suite qu'il s'agit de quelque chose de très sérieux. Et il faut dire qu'avec l'histoire qu'a Marie Bonaparte, on peut imaginer le matériel clinique qu'elle apporte à Freud. En même temps, on peut dire que Freud tombe amoureux de Marie Bonaparte. Amour platonique, bien entendu. Mais à travers la Bonaparte, reviennent à Freud toutes les identifications qu'il a eues lui-même à Bonaparte, à Hannibal, c'est-à-dire à des... conquérants qui ont changé de culture. Ce que Freud écrit sur Napoléon Bonaparte, sur le Corse, hein, d'origine roturière, qui conquiert au fond un empire, il y a là, dans la rencontre avec Marie Bonaparte, une sorte de reconnaissance de la France à son égard, mais de pas n'importe quelle France. C'est la France héritée de la Révolution française, des droits de l'homme. Marie Bonaparte représente à l'époque quelque chose de progressiste. C'est l'entre-deux-guerres. Elle n'appartient pas à cette pensée de la droite française germanophobe et antisémite. Elle appartient à la lignée des Bonaparte. Elle n'a pas une image conservatrice, bien que dans sa vie, tout soit, au fond, la répétition d'un conservatisme étriqué.
Apparemment.
Oui, mais c'est en même temps pas ça. Ça ouvre quelque chose qui sort le mouvement français, puisque la société psychanalytique de l'époque, il y a d'un côté les représentants d'une position chauvine, comme Pichon, qui, tout en étant très freudien, veut franciser la psychanalyse, c'est-à-dire lui enlever ce qu'elle a de prétendu esprit germanique.
À ce propos, justement, je crois que c'est Pichon qui propose la traduction du terme libido en aimance.
Oui, aussi, parce que... Mais pas... Je crois que Pichon ne refusait pas la question de la sexualité, mais il trouvait que, en français, libido renvoyait à libidineux, que c'était un terme qui ne convenait pas. En tout cas, Marie intervient à un moment où cette société psychanalytique est en voie de constitution, où Laforgue est un petit peu déjà sur le déclin, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas, Laforgue, à être un véritable chef d'école. Il est trop ambivalent par rapport à Freud. Et en même temps, Freud fait venir à Paris, enfin, aide à faire venir à Paris des psychanalystes plus chevronnés, comme Raymond de Saussure, Odier, qui viennent de Suisse, et Löwenstein, qui émigre de Pologne et qui sont, disons, formés moins folkloriques, disons, que les psychanalystes français de l'époque, plus formés sur des bases plus solides. noyau psychanalytique en quête d'un maître. La Forgue ne pouvant pas occuper cette position de maître français, n'y parvenant pas, étant quand même très célèbre, étant le chef du mouvement à l'époque, il y a quand même une place à prendre. Étant donné qu'au fond, Freud se rend compte que la Forgue ne joue sa propre carte. Sa propre carte de gourou, de maître français, qui ne sera pas obéissant à Vienne. Marie Bonaparte va représenter, au fond, pour Freud, le pouvoir, la possibilité d'être sa représentante directe, et quelqu'un qui va solidement installer institutionnellement le mouvement français. Elle a de l'argent, elle est prête à s'engager dans la cause qu'elle cherche depuis longtemps, et elle va devenir l'oreille de Freud à Paris. À travers cette analyse, qu'elle commence avec lui en 1925. Et puis elle se met au travail. Elle va traduire des œuvres de Freud, installer le mouvement, faire le va-et-vient entre Vienne et Paris, se dépenser sans compter. Et ça, c'est quelque chose de très important pour Freud.
Ça, elle le fait pratiquement tout de suite. Donc elle le rencontre en 25 et en 26, il y a la création de la Société psychanalytique de Paris.
Et très vite, elle va évincer la Forgue. Mais tout en restant amie d'ailleurs avec la Forgue, parce qu'ils s'écrivent des lettres pendant des années, mais il va de soi que le poids de Freud était très important dans la création de cette société en 26, et qu'à partir du moment où Freud donne tout son aval à Marie Bonaparte, c'est elle qui va devenir le chef du mouvement, et elle en a les moyens.
Et quel rapport est-ce qu'elle a avec tous ces autres analystes de cette époque? Comment est-ce qu'ils la reconnaissent, eux?
Bah, ils sont très impressionnés parce que c'est une princesse célèbre, qui a des moyens, qui est incontestablement dynamique. Mais en même temps, ils ne la reconnaissent pas comme clinicienne. Je crois que Marie Bonaparte a eu d'ailleurs peu d'élèves, peu d'analysants. Mais pour eux, c'était un personnage extraordinaire. Elle va d'ailleurs pas se couper du mouvement français. Elle va être... si vous voulez, les conflits, ils sont internes. La Société psychanalytique de Paris pendant 20 ans, c'est quand même 12 personnes plus les élèves. Ça tourne autour de, jusqu'en 38, de 30-35 personnes. Quand vous avez une société de 35 personnes, il y a bien sûr des conflits. Mais cette Société psychanalytique de Paris, étant en voie d'expansion, ayant à combattre l'anti-psychanalyse qui règne autour, est quand même très unie. Donc tous ces gens se connaissent, se rencontrent. Mais incontestablement, le noyau dur autour de Marie Bonaparte, c'est essentiellement Rudolf Löwenstein, qui va avoir une importance très grande parce qu'il est formé à l'école berlinoise. Il a été analysé par Sachs et il va devenir le principal didacticien à l'intérieur de la Société psychanalytique de Paris, didacticien reconnu plus par l'IPA que la Forgue, considéré comme beaucoup plus sérieux, Löwenstein. Il va analyser en particulier la seconde génération psychanalytique française et Lacan. De sorte que Löwenstein, en outre, devient l'amant de Marie Bonaparte. Il établit une excellente relation avec Marie. Il est son amant, son conseiller. Il va être l'analyste de son fils. Il représente, au fond, la diaspora, l'international.
Le
cosmopolitisme. Et cette alliance profonde va marquer la Société psychanalytique de Paris et la sortir de son chauvinisme, incontestablement.
Nous sommes à la maison de la chimie à l'issue de la dernière séance du congrès qu'a présidé le docteur Natsch. Voici le grand maître de la psychanalyse anglaise, le docteur Ernest Jones. Vous avez, docteur, assisté jadis, il y a de ça un demi-siècle, au premier congrès de psychanalyse. Quel chemin parcouru depuis lors?
J'ai assisté, en effet, à l'organisation du premier congrès de ce genre, il y a presque 50 ans, et je ressens très vivement le contraste entre ces deux réunions. Une vingtaine de participants alors et presque 800 aujourd'hui. Dans le premier congrès, il n'y avait aucun Français. Aujourd'hui, environ 200.
La princesse Marie Bonaparte, qui est aussi princesse de la psychanalyse, voudra-t-elle nous donner son impression générale?
Je suis heureuse de constater l'importance grandissante en France de la psychanalyse. D'abord introduite en France, dans les milieux littéraires par notre regretté collègue Eugénie Sokolnitska, elle a de plus en plus été acceptée par les milieux médicaux et psychiatriques, ainsi qu'en témoigne le nombre croissant de jeunes psychiatres qui se soumettent à cette discipline dans notre institut de psychanalyse.
Profil perdu. Marie Bonaparte par Cécile Amcy. Avec Elisabeth Roudinesco, Philippe Solers, le docteur Gilbert Torgman et la voix de Marie Bonaparte. Les commentaires par Marie Bonaparte d'un des 5 cahiers d'une petite fille entre 7 ans et demi et 10 ans était publié par l'Infini numéro 2 en 1982 et dit par Cathy Grandi et Marcel Tassimo. Groupe de réalisation Marie-Dominique Bougot, Josette Étier, Jacques Taroni.
Cette émission a été diffusée la première fois le 22 octobre 1987 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.